Dans la première lecture, on a entendu une histoire du prophète Élie, et ça se passe dans les années 850 avant Jésus-Christ. Il se trouve qu'à l'époque, sur la terre d'Israël, il y a une grande sécheresse, et que Élie s'en va au nord, en pays païen, d'abord pour obéir à Dieu, parce que Dieu lui a demandé d'aller là-bas, et entre autres parce que la reine d'Israël à l'époque veut sa mort. Donc il part dans cette région du nord et il arrive à Sarepta. Mais là aussi il y a quand même sécheresse et famine. Il rencontre une veuve qui est donc une païenne. Il l'appelle et lui dit « Veux-tu me puiser avec ta cruche de l'eau ?» Ce qu'elle fait. « Donne-moi du pain. » Et alors que cette femme n'a rien, à peine un repas, elle lui donne. Ce qu'elle donne, elle donne l'essentiel, le nécessaire absolu pour elle pour vivre. Si elle ne l'a pas, elle va mourir et elle le sait, c'est ce qu'elle dit. Je rentre le préparer, nous le mangerons et puis nous mourrons. Et pourtant, je te le donne. Elle le donne parce que Élie lui a fait une promesse au nom du Dieu d'Israël. Et vous connaissez ce petit texte, « Jarre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » Alors on pourrait se dire, oui, la promesse était là, c'est bon, c'est facile. Voilà, quand le Seigneur nous fait une promesse, est-ce qu'on le croit absolument tout de suite? En fait, mettons-nous à la place de la veuve. Allons-nous faire confiance à la parole d'un prophète qui viendrait nous dire « C'est bon, ne t'inquiète pas de demain, tu peux tout dépenser aujourd'hui. S'il ne te reste rien, le Seigneur prendra soin de toi. » De fait, nous savons que c'est un peu difficile. Il est très difficile de faire confiance au Seigneur à ce point-là. Pourtant, lorsque Jésus nous parle, il nous invite à ne pas prendre trop souci du lendemain. Le Seigneur, qui prend soin des petits moineaux, prendra soin de vous, prendra soin de nous. Ne nous inquiétons pas. Nous valons beaucoup plus qu'une foultitude de moineaux. Donc le Seigneur nous invite à faire un pas dans la confiance, un pas dans la confiance vers lui. Et c'est encore ce qui nous est proposé dans l'évangile qu'on a entendu aujourd'hui. Jésus était assis devant le temple, devant la salle du trésor. Cette salle du trésor, c'est là où tout juif peut faire un don pour l'entretien du temple, pour le culte, et aussi d'ailleurs pour le bien des pauvres. Beaucoup y mettent de grosses sommes, et on ne dit pas que ce n'est pas bien, hein. Au contraire, on a le droit de mettre de grosses sommes. Et une pauvre veuve, encore une pauvre veuve, vient, il pose deux pièces, petites pièces de monnaie. Et Jésus dit qu'elle donne tout. Elle a donné sa vie, en fait. Elle a donné sa vie dans un acte immense de confiance. Elle a dit, cet argent-là, je le donne, c'est ma vie, mais je fais confiance au Seigneur pour mon bien. Si le Seigneur veut que je vive, je vivrai, je serai dans la joie. Si le Seigneur veut que je meure, eh bien je vivrai aussi parce qu'il m'appelle et je serai dans la joie. Hein, parce que nous savons bien que la mort physique n'est pas l'essentiel. De fait, c'est un immense acte d'amour pour Dieu d'abord et puis aussi pour les hommes que fait cette pauvre veuve. Peut-être qu'elle n'a pas exactement compris exactement ce que cela impliquait, à quoi vont servir ces deux pièces, elle ne le sait pas. Mais elle donne, parce que la règle du culte implique que chacun est invité à donner. Cet acte de confiance en Dieu, en la loi du temple, est quelque chose d'assez remarquable que Jésus souligne. Elle a tout donné pour cela. Et c'est admirable. Alors pour nous, qu'est-ce que cela veut dire ? Mais d'abord, aujourd'hui, en ce 11 novembre, on peut penser à toutes les veuves qui sont restées après la guerre de 14-18. Et il y en a eu beaucoup, vous le savez. Chacun, si nous cherchons dans nos arbres généalogiques, sur nos quatre arrière-grands-parents, arrière-grand-mères, il y en a forcément au moins une qui était restée veuve. Certainement deux et peut-être trois. Donc des veuves, il y en a eu beaucoup. Et elles ont eu toutes à prendre courageusement en main leur vie et à donner ce qu'elles étaient pour le bien de leurs enfants et puis de ceux qui ont suivi après. Nous pouvons rendre grâce pour toutes ces veuves qui ont su donner sans compter. Qui ont su donner, je dirais, pour reprendre quelques mots scouts, qui ont pu donner sans attendre de récompense. Elles avaient déjà tout perdu. Et elles donnent encore. Nous pouvons penser aussi à tous ces soldats qui sont partis. Peut-être qu'ils ne savaient pas exactement pourquoi ni comment cela allait se passer. On peut regretter... un certain nombre de choix et de décisions politiques qui ont été prises à l'époque, entre autres celle de ne pas dire la vérité. Mais c'est tous ces hommes qui sont partis, ils sont partis en sachant qu'ils allaient donner leur vie. Surtout lorsqu'on arrive en 1918, il n'y a plus de grand mystère sur ce qu'est la guerre. En sachant qu'ils allaient donner leur vie et pourtant ils y vont. Ce n'est plus la fleur au fusil évidemment et pourtant ils y vont. Parce qu'ils pensent que leur cause, la cause française, est juste, qu'il est plus juste de parler français aujourd'hui en France qu'allemand. Alors, on peut, bien évidemment, et actuellement les historiens s'en font un plaisir, les politiques aussi, de remettre en cause les raisons et la valeur du don qu'ils ont fait. De fait, tous ces soldats-là, oui, d'une certaine manière, peuvent être appelés victimes, mais pas seulement. Pas seulement. Lorsqu'ils sont partis au combat, ils savaient ce qui les attendait. Et pourtant, ils ont choisi de donner cette vie. Ils ont choisi de la donner pour quelque chose de plus grand qu'eux. Et cela, c'est honorable. Et c'est pour cela que nous les honorons. Dans ces soldats, il y avait des gens bien et puis des gens moins bien. En fait, c'était assez représentatif de notre assemblée d'aujourd'hui, assez représentatif de nos communes, assez représentatif de notre pays aujourd'hui, avec des gens bien et des gens moins bien. Mais tous ont été invités à faire un pas de plus dans l'abnégation, dans la solidarité, dans la fraternité. Parce que ce qu'on ne dit pas beaucoup aujourd'hui, c'est que cette épreuve qu'ont été les tranchées et la guerre, a été pour tous l'occasion d'établir un dialogue. Et c'est un point tout particulier. En 1889, la loi française exige que ne donne plus de droits particuliers aux séminaristes et aux prêtres. Ils devront faire leur service et la guerre, comme tout le monde, avec une arme dans les mains. En 1914, on est toujours sous ce régime-là. Et donc, sac au dos, les séminaristes et les prêtres partent fusil en main. Alors, de fait, assez rapidement, dans les unités, il y a quand même un certain nombre de chrétiens qui vont demander les services spécifiques du prêtre ou du séminariste. Et peu à peu, le statut va changer, d'abord de manière informelle, mais ils vont devenir vraiment les conseillers spirituels de ces hommes. Une fraternité réelle va s'établir entre l'anticlérical du Sud-Est et le chrétien de Bretagne. L'aumônier aura une place toute particulière. En fait, s'il y a une leçon dont on peut retirer de cette guerre, malgré toutes les atrocités et toutes les horreurs, c'est que finalement, nous ne pouvons établir de liens durables et solides que si nous traversons ensemble des épreuves. Alors, de fait, j'espère bien que des épreuves telles que celle-là, nous n'en connaîtrons pas trop vite, ou même après d'ailleurs. Mais de fait, ces épreuves-là, elles viennent. Nous ne sommes pas forcés toujours de les éviter. Et c'est vrai dans nos vies à nous, quotidiennes, dans nos familles, dans nos fratries. Si nous voulons établir des vrais liens, il nous faut affronter des épreuves ensemble. Et lorsqu'on en sort, que ce soit victorieux ou non d'ailleurs, le lien est établi. Et quelques années plus tard, alors qu'on ne s'est pas revu, lorsque l'on se reconnaît, on se souvient et on sait que nous sommes frères. Alors aujourd'hui, nous pouvons repenser à ces pauvres veuves de l'Évangile qui font confiance à Dieu. Nous pouvons penser jusqu'à tout donner. Nous pouvons penser à nos soldats, à notre pays qui s'est engagé tout entier dans la guerre et qui a tout donné et qui a beaucoup perdu. Et nous pouvons nous poser la question, et nous, est-ce que nous avons quelque chose, une raison pour laquelle donner notre vie? Parce que fondamentalement, donner notre vie et aimer, cela revient au même. Le Christ a donné sa vie pour nous. Il nous invite à faire de même, à donner la vie pour nos frères, à donner notre vie pour nos frères. Engageons-nous et aimons.